VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 23 février 2016. Au sommaire ce soir.
Présidentiel au Niger, l'opposition rejette les résultats partiels donnés hier par la commission électorale.
Les résultats proviennent de milliers de bureaux de vote fictifs. Nous confronterons nos données et celles dont ils disposent.
Madou Boubacar Cissé, porte-parole de la coalition des partis d'opposition. On retrouvera sur place notre envoyé spécial, Nicolas Pinault.
Ban Ki-moon au Burundi, le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec le président Pierre Nkurunziza pour tenter de relancer le dialogue inclusif inter-burundais.
Nos discussions ont été sincères et productives.
Au Tchad, la marche pacifique de l'opposition démocratique n'a pas eu lieu.
L'espace Fest Africa, qui constitue le point de départ de cette marche pacifique, a été pris d'assaut très tôt le matin par le service de sécurité.
États-Unis, Barack Obama se prononce encore une fois en faveur de la fermeture de la prison de Guantanamo.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Élection au Niger, l'opposition a exprimé aujourd'hui son refus de reconnaître les résultats partiels de l'élection présidentielle annoncée la veille par la CENI, la Commission électorale nationale. À peine 10% des résultats ont été publiés et sur 27 communes, le président sortant Mahamadou Issoufou totaliserait 35,9% des suffrages contre 19,35% pour Mahamadou et 13,71% pour Oumarou CENI. L'opposition dénonce des fraudes dans le scrutin. Un extrait de la déclaration d'Amadou Boubacar Cissé, porte-parole de la coalition des partis d'opposition, la COPA.
Depuis le 22 février, alors que les opérations de dépouillement ne sont même pas terminées dans de nombreuses localités, la CENI diffuse des résultats pour le moins fantaisistes. Les résultats sont en désaccord total avec les données réelles récoltées par les représentants des partis membres de la COPA 2016. À Zinder et dans bien d'autres régions, les résultats proviennent de milliers de bureaux de vote fictifs. Dans nombre de zones où le PNDS a été largement battu, la CENI présente des résultats surprenants qui nous montrent clairement que le président Issoufou Mahamadou persiste dans son illusion de coup chaos qu'il veut imposer par une trituration irresponsable des résultats du vote, sanctions des populations nigériennes. En tout état de cause, les partis de la COPA 2016 ne permettront pas de voler les suffrages du peuple nigérien.
Amadou Boubacar Cissé, porte-parole de la coalition des partis d'opposition du Niger, la COPA, propos recueillis par notre envoyé spécial à Niamey, Nicolas Pinault.
Le secrétaire général de l'ONU était de passage au Burundi où il s'est entretenu avec le président Pierre Nkurunziza. Pour Ban Ki-moon, l'urgence humanitaire doit pousser sans délai les autorités burundaises à s'asseoir avec les véritables belligérants de la crise inter-burundaise. Il faut faire vite, c'est du moins ce qu'a déclaré au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président Pierre Nkurunziza, le patron de l'ONU.
Nos discussions ont été sincères et productives. Avec le président, nous avons évoqué les problèmes que connaît son pays. Nous avons aussi parlé de ce que l'Organisation des Nations Unies était prête à faire pour lui, apporter son aide et appuyer ses efforts dans le cadre d'un partenariat renforcé. Nous avons aussi abordé les moyens qu'elle pouvait mettre en œuvre à cette fin. La société burundaise s'en trouve ébranlée et plus de 240 000 personnes sont parties chercher refuge à l'étranger. L'Organisation des Nations Unies fait tout son possible pour faciliter un règlement pacifique dans la crise.
Voilà, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, sur les déclarations du président burundais après sa rencontre avec le patron de l'ONU. Écoutons le reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
Pierre Nkurunziza, quant à lui, s'est félicité de la collaboration avec les Nations Unies, où les militaires et policiers burundais collaborent étroitement avec les Nations Unies en Somalie, en République centrafricaine et dans d'autres pays. Pour le président burundais, cette collaboration sans faille va continuer pour les biens de Burundais et des Nations Unies. Des preuves ont été données à Ban Ki-moon qui montrent que le Rwanda entraîne des réfugiés burundais sur le territoire rwandais, selon toujours le président burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et rappelons que le secrétaire général de l'ONU avait rencontré lundi soir 4 responsables de la majorité et de l'opposition en excluant les partis satellites.
Après cette escale au Burundi, le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu dans l'est de la République démocratique du Congo. Ban Ki-moon a visité pendant quelques heures le camp de déplacés de Mungote à Kichanga, dans le nord Kivu. Après un échange avec des femmes vivant dans ce camp, M. Ban s'est rendu dans une école où il a servi un repas chaud aux enfants. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je suis très heureux aujourd'hui par tout ce que j'ai entendu, j'ai vu moi-même. Je suis très humble, très touché. En tant que secrétaire général, je vais à la rencontre des plus vulnérables, des fragiles. Je voudrais être leur avocat, leur voix, de ceux qui n'en ont pas. Je pense que nous devons améliorer l'assistance humanitaire. C'est pourquoi je vais organiser le premier sommet humanitaire mondial à Istanbul, Turquie, pendant le mois mai.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en RDC.
La longévité des dirigeants au pouvoir dépend de la volonté des peuples, a assuré aujourd'hui le président congolais Denis Sassou Nguesso pour justifier sa candidature à un troisième mandat à la présidentielle du 20 mars. Il faut dire que la candidature de Denis Sassou Nguesso a été rendue possible après un changement de constitution et en fait sauter les verrous qui lui interdisaient de briguer un troisième mandat.
Blaise Compaoré a obtenu la nationalité ivoirienne. C'est ce que rapportent les médias locaux en Côte d'Ivoire. Le décret le naturalisant a été signé par le président Alassane Ouattara. François Compaoré, le frère cadet de Blaise Compaoré, a également demandé et obtenu la naturalisation ivoirienne, selon le journal officiel. L'ex-président burkinabé est en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014.
Le président du Kenya à Jérusalem, à l'occasion d'une rencontre avec Uhuru Kenyatta, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël était prêt à coopérer avec les pays africains dans la lutte contre le terrorisme islamiste.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, le régime de Damas a donné son accord au projet américano-russe de cesser le feu qui doit entrer en vigueur le week-end prochain. Et idem dans le camp de l'opposition, Idriss Fall.
Le haut comité des négociations qui rassemble des groupes de l'opposition a déjà donné son feu vert hier en restant sceptique sur la bonne foi du régime syrien. Après un entretien hier avec Barack Obama, le président russe Vladimir Poutine avait assuré qu'il ferait tout pour que son allié syrien respecte cet accord. La trêve doit débuter samedi à 0h locale. Elle exclut le groupe État islamique et le Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, qui contrôle des pans entiers de la Syrie. C'est surtout le Front al-Nosra, allié à certains groupes rebelles, qui sera un obstacle majeur. Cet accord intervient au moment où l'armée syrienne, appuyée par les bombardements russes, a repris beaucoup de terrain aux rebelles dans la province d'Alep. D'ailleurs, le président Bachar al-Assad a annoncé la tenue des législatives pour le 13 avril dans tout le pays.
Le président Barack Obama a dévoilé aujourd'hui son projet de fermeture du centre de détention de Guantanamo à Cuba. Il a prononcé une allocution télévisée ce matin à la Maison-Blanche après que le Pentagone a soumis à ce sujet un plan au Congrès. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
La fermeture de la prison hautement controversée de Guantanamo étant une vieille promesse électorale de M. Obama. En entamant son second mandat en 2009, il avait souligné l'importance de le faire et à moins d'un an de sa présidence, il ne reste que 91 détenus dans cette prison.
For many years, it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security.
Il est clair depuis de nombreuses années que le centre de détention de Guantanamo ne fait pas avancer notre sécurité nationale, il la mine, a déclaré M. Obama. Mais les républicains ont déjà critiqué la proposition du Pentagone pour le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan. La loi est très claire, pas de transfert de terroristes vers le sol américain, a-t-il dit. Un proche collaborateur du président souligne qu'il s'agit là d'une priorité en matière de sécurité nationale, qualifiant Guantanamo d'un outil de recrutement des djihadistes.
Selon l'agence France-Presse, les polices d'Espagne et du Maroc ont démantelé ce mardi dans l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc et la ville marocaine de Nador, une cellule djihadiste présumée comprenant un ancien détenu de Guantanamo, a annoncé la police espagnole.
Les forces loyales aux autorités libyennes, reconnues par la communauté internationale, ont pris le contrôle de la zone de Liti, principal bastion djihadiste de la ville de Benghazi, deuxième ville de Libye, selon un responsable militaire. Nous avons totalement libéré la zone de Liti, a affirmé à l'AFP Fahd al-Assir, responsable au sein des forces spéciales à Benghazi, ville située à 1000 km de la capitale Tripoli.
La Belgique a annoncé le rétablissement temporaire des contrôles à sa frontière avec la France pour faire face à un éventuel afflux de migrants quittant la jungle de Calais, vaste camp situé près de l'entrée française du tunnel sous la Manche. Et le secrétaire d'État John Kerry a annoncé ce mardi qu'il irait dans une semaine ou deux à Cuba pour discuter du dossier épineux des droits de l'homme avant la visite de Barack Obama. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com.
Allez, on passe à l'actualité économique avec Nathalie Barge.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite s'est entretenu ce mardi à Riyad avec le président nigérian Muhammadu Buhari, venu discuter des moyens de stabiliser les prix du pétrole. Lors de sa tournée dans les pays du Golfe, M. Buhari se rendra également au Qatar. Le Nigeria souffre de la chute des prix du pétrole qui a considérablement réduit les revenus publics et affaibli la monnaie. L'on s'attend à voir Abuja soutenir la décision de certains pays de l'OPEP de geler la production à son niveau de janvier. Grande réussite de la Côte d'Ivoire dans la production de la noix de cajou. Au cours des 10 dernières années, le pays a quadruplé sa production et récemment dépassé l'Inde comme premier producteur de cette denrée au monde. La campagne commerciale 2016 a débuté avec des prix à la hausse en raison d'une demande mondiale toujours croissante. Toutefois, le secteur souffre d'une faible capacité nationale de transformation, ce qui affecte ses revenus. En Centrafrique, le ministère des Finances a lancé ce mardi la rentrée fiscale 2016 par une campagne de sensibilisation sur l'importance de s'acquitter de ses taxes, indique l'APA. La directrice générale des impôts, Marie-Louise Yakemba, a demandé aux commerçants de se rapprocher de ses services pour profiter d'allègements fiscaux. Pour les PME, le taux des impôts a été réduit de 15% à 12% avec la taxation des taximotos pour élargir l'assiette fiscale.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie.
On passe à la page sport avec Bagassi Koura. Alors, on commence en football, Bagassi. Huitième de finale aller de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, avec deux chocs, hein, les Anglais d'Arsenal qui affrontent le FC Barcelone de Lionel Messi. Il y a aussi le choc Juventus Turin contre les Allemands du Bayern Munich.
Et demain, suite et fin de ces huitièmes de finale, aller de Ligue des Champions.
Oui, l'Atlético Madrid sera en déplacement aux Pays-Bas à Eindhoven chez le PSV, tandis que Manchester City se rendra sur le terrain du Dynamo Kiev, en Ukraine.
Voilà, élection à la FIFA, jour J-3, l'un des cinq candidats demande le report du vote.
Oui, il s'agit du prince Ali qui estime que le vote n'est pas assez transparent à ses yeux. Il a donc saisi le TAS, le tribunal administratif du sport, qui se prononcera jeudi matin au plus tard. Et donc, on verra s'il va se retirer ou si on va reporter l'élection.
Ou peut-être tout simplement parce qu'il a l'impression qu'il va perdre. Toujours concernant cette élection à la tête de la FIFA, un syndicat réclame aux candidats de s'engager clairement pour les droits de l'homme et le droit du travail sur les chantiers des mondiaux.
C'est ce que le syndicat du bâtiment allemand demande à la DFB, la Fédération allemande de football. Cela fait suite aux critiques récurrentes dont fait face Qatar 2022. Le syndicat allemand qui prône aussi des changements significatifs des conditions d'attribution des mondiaux par la FIFA attend des cinq candidats une déclaration allant dans ce sens avant l'élection présidentielle prévue vendredi à Zurich.
Et en basket professionnel nord-américain, on ne finira pas de parler des Golden State Warriors, Bagassi.
Et Steph Curry, les Golden State Warriors, comme vous dites, ont empoché ce lundi leur 50e succès de la saison en seulement 55 matchs et continuent de courir après le record de victoires des Chicago Bulls de Michael Jordan, 72 victoires d'affilée, et Scottie Pippen lors de la saison 95-96. Et ce résultat, les LA Clippers ont gagné face à Phoenix 84 à 124.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guériec et Chérubin Dorsil. On va passer au dossier du jour. Morgane, notre première escale ce soir, c'est au Niger.
Oui, pour parler des élections. L'opposition a exprimé aujourd'hui son refus de reconnaître les résultats partiels de la présidentielle, résultats annoncés par la commission électorale. Alors on fait le point d'emblée sur les résultats à Niamey avec notre envoyé spécial, Nicolas Pineau.
Et oui Morgane, bonsoir à tous. C'est plutôt lent ici à Niamey, puisqu'à peine 10% des résultats ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Il faut bien reconnaître, Morgane, qu'on votait encore hier lundi dans plus de 200 bureaux de vote. Ceci explique peut-être les retards selon les chiffres de la CENI provisoire sur 27 communes. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, totaliserait 35,9% des suffrages, 19,35% des voix pour Rama Amadou, le leader du Lumana, et Oumarou Seyni du MNSD, qui totaliserait 13,71%.
Alors, des résultats pour l'instant provisoires, mais déjà l'opposition annonce son refus de reconnaître ces résultats.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la COPA, la Coalition pour l'Alternance, a tenu un point de presse. Amadou Boubacar Cissé s'est exprimé au nom de la COPA. Il a d'ores et déjà rejeté, évidemment, ces résultats. Vous l'avez dit, il a parlé de fraude. Il a parlé notamment de bureaux de vote fictifs. Et il a donné, par exemple, la région de Zinder, où selon lui, il y aurait eu plus de 2600 bureaux de vote fictifs. Ils estiment également que les résultats qui sont communiqués en ce moment par la CENI, ces résultats provisoires, ne sont pas ceux du terrain. Ils estiment qu'il y a un décalage et ils affirment qu'ils vont publier leurs propres chiffres dès qu'ils auront récolté toutes leurs données. En tout cas, la suspicion est généralisée. Ils dénoncent également parfois des urnes qui auraient été volées par les forces de l'ordre. Mais Morgane, ce n'est pas nouveau. Bien avant le scrutin, dès vendredi dernier, ces mêmes membres de la COPA disaient déjà à VOA Afrique que le scrutin ne serait pas transparent et crédible, Morgane. L'opposition qui appelle ses militants à résister, mais l'opposition qui ne dit pas ce qu'est la résistance, malgré les questions des journalistes, ABC, comme on l'appelle ici, n'a pas voulu préciser. En tout cas, pour le moment, on s'achemine vers de la contestation, Morgane.
Que disent les observateurs internationaux ?
Alors écoutez Morgane, à la fois la CEDEAO, à la fois la mission de l'Union africaine et celle de la francophonie avaient publié, avant évidemment le point de presse de l'opposition, avaient publié un communiqué commun dans lequel ils disaient que l'élection s'était tenue dans un cadre de paix et surtout était transparente. Aujourd'hui, évidemment, l'ancien Premier ministre gabonais Eyigui Ndong a refait une communication sur le rapport préliminaire de l'Union africaine. Et là encore, on n'a pas parlé de fraude. Pour le moment, on ne communique pas du tout sur ces allégations de l'opposition. Il va donc falloir attendre, évidemment, la proclamation des résultats provisoires qui devraient intervenir cette nuit ou demain midi pour avoir peut-être une vision plus claire de ces allégations de fraude.
Et les électeurs, que disent-ils concernant ces allégations de fraude ?
Pour le moment, en tout cas, Morgane, ils attendent, évidemment. Ici, tout le monde affirme que c'est très très long, que c'est pas normal. Généralement, les résultats doivent être publiés beaucoup plus rapidement, comme ça avait été le cas en 2011. Donc ici, beaucoup estiment que, évidemment, plus le temps passe et plus on s'interroge, et cela renforce la suspicion, Morgane.
Nicolas Pineau, notre envoyé spécial au Niger.
Washington Forum cette semaine, retour sur les élections générales au Niger. 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ils devaient voter entre 15 candidats pour présider le pays. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais les résultats seront-ils acceptés par tous? Après 4 coups d'État dans son histoire et la menace de Boko Haram, de quoi sera fait l'avenir du Niger? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Au Tchad, la marche pacifique de l'opposition démocratique prévue à N'Djamena n'a pas eu lieu ce matin. Tous les coins stratégiques ont été quadrillés tôt le matin par la force mixte, gendarmerie et police nationale. De la capitale tchadienne, la correspondance d'André Kodmajingar.
L'espace Fest Africa, qui constitue le point de départ de cette marche pacifique, a été pris d'assaut très tôt le matin par le service de sécurité. Une trentaine de véhicules bourrés des éléments de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que des chiens anti-émeutes, attendaient de pied ferme les manifestants. Regroupés devant le domicile du chef de file de l'opposition, brandissant les pancartes où on peut lire « Non à l'injustice, non à la répression de la jeunesse tchadienne, non à un cinquième mandat pour Déby, non aux violations des droits humains », les militants de ces partis politiques de l'opposition l'opposition attendaient le mot d'ordre de leur leader pour croiser le fer avec les agents de sécurité. Un meeting s'impose et le président du parti RPR Rassemblement Patriotique du Renouveau, Mahamat Bar Béchir, dit ceci.
Acceptez-nous toujours d'être réprimés dans les sangs par la milice d'Idriss Déby?
Non!
Déby est en train de transformer notre pays en une monarchie clanique. C'est de faire de nous, nous peuple tchadien, des esclaves pour sa famille. Nous, on n'accepte pas ça.
Jamais.
Vous, jeunes patriotes, vous n'avez pas d'avenir avec Déby.
Jamais.
Il faut qu'on puisse marcher.
Jamais.
Marcher, marcher. C'est la seule issue que nous avons pour libérer notre pays. Pour libérer notre pays de ses apatrides.
Salih Kebzabo, chef de file de l'opposition, sort de la maison et lance cet appel aux militants, pourtant plus que déterminés.
Nous sommes devant un dilemme qui est grave parce que la marche est interdite et on le sait depuis hier. On ne peut donc pas se regrouper à Fest Africa pour démarrer notre marche. Tous les ronds-points sont occupés par la police. Donc la décision qu'on prend ne relève pas de la peur. Quand on a dit qu'on marchait, on avait évalué tout cela. Et donc, je pense qu'on va évaluer encore cette situation et on verra dans les heures ou dans les jours qui suivent quelle décision définitive on va prendre et vous en serez informé par voie de presse comme d'habitude.
Le président du RPR, Mahamat Bar Béchir, prend acte de ce revirement à 90 degrés et demande à ses militants de rester sereins et mobilisés pour les actions futures.
Le chef de file vient de se prononcer. La marche est une marche de l'opposition. Je me soumets à la décision de l'opposition. Mais je vous rassure, le RPR va évaluer et va prendre une décision dans les heures à venir pour appeler notre peuple à marcher, à braver les interdictions de ces régimes, les interdictions illégitimes.
Cette marche avortée risque d'entamer la crédibilité du chef de file de l'opposition, car beaucoup de ses compagnons de lutte se disent déçus parce que Salih Kebzabo a fléchi face à cette menace de peur que sa candidature ne soit invalidée à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. André Koduma Dingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Au Cameroun, crimes et assassinats sont devenus légion. Ces derniers mois, des enfants ont même été pris pour cible. Leurs corps ont parfois été retrouvés et parfois mutilés. Le dernier cas en date est celui d'une fillette de 2 ans retrouvée décapitée. Une situation qui a suscité le courroux et la compassion des populations de Douala. Reportage de Sandrine Yamga.
Son visage angélique et son doux sourire font le tour des réseaux sociaux. C'est que les internautes restent consternés par les circonstances du décès de la petite Evan Depe Kamgang, âgée de 2 ans seulement. Portée disparue au quartier Makepe-Misoke dans le 5e arrondissement de Douala, capitale économique du Cameroun, la fillette a été retrouvée 4 jours plus tard dans un cours d'eau situé non loin du domicile de sa tante où elle avait été enlevée par des inconnus. La dépouille de la petite Eva n'avait plus de tête. Les seuls éléments qui avaient permis de la reconnaître étaient sa robe de couleur rose et sa paire de tennis. Elle a été repérée par un adolescent de retour des classes. Difficile pour Nikès, la jeune maman, de contenir ses larmes face au reste de sa fille.
Mon frère me dit que maman, je vais manger. Je vais retirer la nourriture, je reviens, je ne trouve plus la femme. Ne trouvez plus l'enfant, personne n'a vu la moto, personne n'a vu la voiture, personne n'a vu l'enfant, la femme a disparu.
Ce qui est arrivé reste inexplicable pour Judith Massom, la tante de Eva qui avait l'habitude de passer des jours avec sa petite nièce.
Le samedi là, elle est venue, ça n'a même pas fait 30 minutes. Elle s'est assise juste au portail. Ça ne fait même pas 30 minutes. On se tourne, on appelle Eva, Eva n'est plus là. Bon, on commence à chercher Eva partout dans le quartier. Même jusqu'au lieu là où on l'a trouvé dans l'eau, là, on était même là-bas, on a fait 3 tours là-bas. Le jour où on a dit qu'on a trouvé Eva dans l'eau, nous on n'était même pas sûr que c'est notre bébé que nous on cherche.
L'enquête qui a été ouverte par la police n'a pas encore livré ses résultats, mais Nikès estime que les bourreaux de sa progéniture auraient pu procéder autrement. Voir une petite fille égorgée, l'image reste insoutenable aussi pour des mamans qui ont dû revoir leurs habitudes de vie avec leurs enfants.
J'ai peur, parce qu'on peut venir aussi faire la même chose qu'on a fait sur l'autre là, sur mes enfants.
Maintenant, pour laisser rien que l'enfant ici là pour aller au marché, c'est quelque chose maintenant qui dérange. Nous, on a peur.
Dans la société civile également, les crimes sur les enfants appellent à une remise en question de tous les acteurs, surtout des gouvernants. C'est l'analyse de Marlène Mvoutou, actrice de la société civile.
Pour moi, la réflexion que je fais,
Et d'abord sur la protection de l'enfance au Cameroun, la protection des enfants. Qu'est-ce que le gouvernement de la République fait pour empêcher qu'on retrouve des enfants dans les rues à 8 ans qui vendent des arachides? Parce que ces enfants sont une cible facile pour ces personnes-là.
Les circonstances du décès de Eva ont suscité la compassion au Cameroun, dans la ville de Douala en particulier. Et des parents ont organisé une marche pour dire non à ces crimes d'enfants. Une initiative étouffée par les autorités administratives qui ont évoqué le climat sécuritaire actuel. Ces parents se sont limités finalement à une messe en la mémoire de tous les enfants assassinés. Et de Sandrine Yamga, Douala, Cameroun, Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Cap sur le Bénin. Depuis plus de 20 ans, le peuple américain à travers l'USAID finance des campagnes de communication pour un changement de comportement au sein de la jeunesse béninoise. Il s'agit entre autres de ne plus faire du sexe, par exemple, un sujet tabou. Aujourd'hui, les jeunes en parlent sans gêne et sans la peur d'être traités de tous les noms par les aînés. Une correspondance à Cotonou de Ginette Fleur-Anandé.
Point n'est besoin aujourd'hui de ne parler de la sexualité que dans sa chambre. Pour avoir longtemps bénéficié des campagnes de sensibilisation financées par l'USAID, les jeunes en parlent sans gêne et sans tabou. Quelle est la place du sexe dans un couple? Les hommes ne manquent pas de réponse.
L'importance du sexe est capitale dans une relation, même si vous êtes guidé premièrement par l'amour, qui permet de consolider cet amour-là que vous ressentez l'un pour l'autre.
Ça permet d'avoir des progénitures et même si davantage il n'y a pas de progénitures, ça permet de consolider et de satisfaire un foyer.
Le sexe, c'est le motif premier d'une relation. C'est le jus, le ciment d'une relation sentimentale. Ce qui est important dans une relation, c'est que le sexe sous-regarde la relation sentimentale.
La place du sexe dans un couple, ce sont les femmes qui en parlent plus.
Le sexe, c'est la première des choses. Vous aussi, mettez-vous un peu à la place de toute femme. Le sexe, c'est la première des choses. Et si un homme et une femme se disputent, et la nuit, ils font l'amour, c'est fini. Ce problème est résolu.
Je pense que c'est important dans le sens que ça peut être un moyen de communication. Et le sexe dans une relation, c'est important quand même.
Chez un homme, on aime deux choses, soit le sexe, soit l'argent. Si la femme se marie, C'est pour ça, premièrement. Sinon, si c'est affaire de nourriture, il y a la nourriture chez mon père.
Le manque d'éducation sexuelle a poussé bien de couples à se séparer par le passé. Aujourd'hui, les jeunes se disent plus aguerris, aptes à éviter ce genre de crise où deux personnes qui s'aiment souffrent pour non-satisfaction sexuelle. Pour les jeunes, quand il y a incompatibilité sexuelle, mieux vaut s'en aller.
Si on n'est pas encore marié, c'est mieux de le quitter en même temps que d'attendre pour se marier. Parce que si on ne satisfait pas au lit, vraiment, ça ne peut pas marcher.
C'est la raison majeure pour laquelle on est ensemble. Si le lit n'est pas assuré, moi je préfère aller voir ailleurs.
La satisfaction, là, ce n'est pas sur le plan sexuel. Je ne peux pas me baser là-dessus pour me séparer d'un homme. Tout ça prend, non? À moi de lui montrer ce que j'aime, ce qu'il doit me faire pour pouvoir me satisfaire, quoi. N'est pas obligé de tout connaître.
Mais c'est capital. Si on est ensemble, qu'on ne peut pas correctement se satisfaire, on sera obligé d'aller voir ailleurs.
Dans une relation, c'est important que la femme soit satisfaite. Quand on n'est pas satisfait, je pense que la relation ne va pas durer. Parce que quand on a une relation, la satisfaction doit être réciproque. Alors si c'est seulement lui qui prend son pied et que vous ne sentez rien et que vous allez être utilisé comme un objet, je pense que ça va pas durer.
De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Mr. Wagner Robert, présentation Morgane Guériac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser, si vous voulez partager des photos ou quoi que ce soit qui vous intéresse, Facebook VOA Afrique est à votre disposition et visitez aussi voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM. Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.